Début janvier, un matin, alors que nous nous alignons pour qu'on nous compte avant d'aller travailler dans la cour, on nous a conduits à l'extérieur et fait monter dans un camion bâché. C'était la première fois que nous quittions notre prison. Quelques minutes plus tard, nous sommes descendus du camion dans un endroit que j'avais déjà vu lors de mon premier séjour sur l'île. La carrière de pierre à chaux. Cela ressemblait à un énorme cratère blanc taillé sur le versant d'une colline pierreuse. Les à-pics et le pied de la colline étaient d'une blancheur aveuglante. Au sommet de la carrière, il y avait de l'herbe et des palmiers, et en bas, une clairière, avec quelques vieux hangars en tôle. Un officier, le colonel Vessels, nous attendait. Un type assez terne, qui ne s'occupait que du respect très strict des règlements. Nous sommes restés au garde-à-vous pendant qu'il nous expliquait que nous ferions ce travail pendant 6 mois. Son calcul était particulièrement faux. Nous sommes restés dans la carrière pendant les 13 années suivantes. Nous avons pensé que le travail à la carrière était une autre façon de durcir la discipline, de nous montrer que nous ne différions pas des autres prisonniers qui travaillaient dans une carrière de pierre de l'île et que, comme eux, nous devions payer pour nos crimes. Les autorités voulaient briser notre volonté. Mais les premières semaines à la carrière eurent sur nous l'effet inverse. Malgré nos mains couvertes d'ampoules et de plaies, nous nous sentions revigorés. Je préférais de beaucoup travailler à l'extérieur, dans la nature, voir de l'herbe et des arbres, les vagues de l'océan, observer les oiseaux qui volaient dans le ciel, sentir le vent de la mer. C'était agréable de se servir de ses muscles, avec le soleil sur le dos. Et le fait d'entasser des tas de pierres et de chaux avait quelque chose de gratifiant. Quand nous arrivions le matin, nous allions prendre nos pioches, nos pelles, nos marteaux et nos brouettes dans un hangar en tôle au sommet de la carrière. Puis nous nous rassemblions par groupes de 3 ou 4. Les gardiens, équipés d'armes automatiques, nous surveillaient depuis des plateformes. Des gardiens sans armes marchaient parmi nous et hurlaient pour que nous travaillions plus vite. « Gan an! Gan an! Allez, allez !» criaient-ils comme si nous étions des bœufs. À 11 heures, quand le soleil était haut dans le ciel, nous commencions à ralentir. À ce moment-là, j'étais trempé de sueur. Les gardiens hurlaient encore plus fort. « Ne man! Kom an! Kom an! » Non. Allez, allez! Juste avant midi, l'heure du déjeuner, nous transportions des brouettes de blocs de chaux jusqu'au camion qui les emportait. À midi pile, à un coup de sifflet, on se dirigeait au pied de la colline et l'on s'asseyait sur des sièges de fortune derrière un hangar de tôle qui nous protégeait du soleil. Les gardiens mangeaient dans un hangar plus grand, avec des tables et des bancs. On nous apportait des fûts métalliques de bouillie de maïs, ainsi que de l'eau dans des gros bidons rouillés. Chaque prisonnier recevait sa ration d'eau. Nous reprenions le travail jusqu'à 16 heures et nous transportions à nouveau la chaux jusqu'au camion. À la fin de la journée, nous avions le visage et le corps recouverts d'une couche de poussière blanche. Nous ressemblions à des fantômes, sauf là où la sueur avait lavé la chaux. Quand nous revenions à nos cellules, nous nous récurions dans l'eau froide, qui ne nous semblait jamais enlever toute la poussière. Peu de temps après avoir commencé à travailler à la carrière, un certain nombre de prisonniers politiques importants nous ont rejoints dans la section B. Pour contrebalancer l'effet de ces nouveaux alliés politiques, les autorités mirent aussi un certain nombre de prisonniers de droit commun dans notre section. Il s'agissait de criminels endurcis, condamnés pour meurtre, pour viol et vol à main armée. Ils appartenaient aux gangs criminels les plus célèbres de l'île, les Big Five ou les 28, les 5 durs ou les 28, qui terrorisaient les autres prisonniers. Ils étaient costauds et hargneux et avaient le visage couvert de cicatrices à la suite de bagarres au couteau, très communes parmi les membres des gangs. Ils avaient comme tâche de nous provoquer. Et ils essayaient de nous bousculer, de prendre notre nourriture et d'empêcher toute discussion politique. À la carrière, les membres du gang formaient une équipe de travail séparée. Un jour, ils entonnèrent ce qui ressemblait à une chanson de travail. Mais s'il s'agissait bien d'une chanson de travail, ils avaient leurs propres paroles. Beni funani e Rivonia. C'est-à-dire, que vouliez-vous à Rivonia? Le vers suivant disait à peu près, est-ce que vous pensiez que vous alliez devenir le gouvernement? Ils chantaient avec exubérance et sur un ton de moquerie. À l'évidence, les gardiens les avaient encouragés en espérant que la chanson nous énerverait. Nous avons décidé de combattre le feu avec le feu. Nous avions de meilleurs chanteurs qu'eux et en plus grand nombre. Quelques minutes plus tard, nous entonnions Stimella, un chant entraînant sur un train descendant de Rhodésie du Sud. Stimella n'est pas une chanson politique, mais dans ce contexte, elle le devint, car elle impliquait que le train transportait des guérilleros venant combattre l'armée sud-africaine. Pendant plusieurs semaines, les deux groupes ont chanté en travaillant, en multipliant les chansons et en changeant les paroles. Chanter rendait le travail plus léger. Quelques compagnons avaient des voix extraordinaires, et souvent j'avais envie de poser ma pioche pour les écouter. Les droits communs n'étaient pas des rivaux sérieux. Ils se turent bientôt, alors que nous continuions à chanter. Mais un des gardiens parlait très bien le Kossa, et comprenait les paroles de nos chansons. Et on nous donna l'ordre de ne plus chanter. À partir de ce jour, nous avons travaillé en silence. La Croix-Rouge internationale nous fit parvenir le matériel nécessaire à nos études. Quand on nous a envoyés à Robben Island, nos partisans se sont inquiétés en pensant qu'on ne nous permettrait pas de faire des études. Dans les mois qui ont suivi notre arrivée, les autorités nous ont informés que ceux qui voulaient étudier pouvaient en faire la demande. La plupart le firent, même ceux qui appartenaient au groupe D. Et on l'accorda à tous. Après le procès de Rivonia, l'État avait repris confiance et pensait que nous donner ce privilège ne prêtait pas à conséquence. Mais le privilège de faire des études s'accompagnait d'une multitude de conditions. Certains sujets, comme la politique ou l'histoire militaire, étaient interdits. Pendant des années, nous n'avons pu recevoir d'argent que de nos familles. Et les prisonniers pauvres avaient rarement de quoi acheter des livres ou des cours. La possibilité d'étudier devenait signe de richesse. Nous n'avions pas non plus l'autorisation de prêter des livres aux autres prisonniers, ce qui aurait permis aux plus pauvres d'étudier. Pour les prisonniers politiques, les journaux avaient plus de valeur que l'or ou les diamants, et ils en avaient une faim plus grande que de nourriture ou de tabac. C'étaient les marchandises de contrebande les plus précieuses de Robben Island. Les journaux représentaient le matériau intellectuel de base de la lutte. Nous n'y avions absolument pas droit, malgré notre désir. Cette privation semblait encore plus pénible à Walter qu'à moi. Les autorités essayaient de nous imposer un blackout total. Elles ne voulaient pas qu'on apprenne quelque chose qui puisse nous redonner le moral, ni qu'on sache qu'on pensait encore à nous à l'extérieur. Quand nous avions un journal, il était trop risqué de le faire circuler. Sa possession constituait une faute grave. Alors un seul prisonnier le lisait, en général Kati, ou plus tard Mac Maharaj, un prisonnier politique récemment arrivé. Kati était responsable des communications et il avait mis au point un système ingénieux pour faire circuler l'information. D'abord, il lisait le journal. Il découpait ce qu'il jugeait intéressant et nous le distribuait secrètement. Chacun rédigeait ensuite un résumé de ce qu'on lui avait donné. Puis on faisait circuler ces résumés entre nous avant de les passer en fraude à la section générale. Quand les autorités se montraient particulièrement vigilantes, Kati ou Mac Maharaj rédigeaient eux-mêmes le résumé du journal. Ils le détruisaient ensuite en le déchirant en tout petits morceaux avant de les jeter dans leur seau hygiénique que les gardiens n'inspectaient jamais. Dans la vie de tout prisonnier, la personne la plus importante n'est pas le ministre de la Justice, ni le commissaire des prisons, ni même le directeur de l'établissement, mais le gardien de sa section. Si vous avez froid et si vous voulez une couverture de plus, vous pouvez toujours adresser une requête au ministre de la Justice, vous n'obtiendrez pas de réponse. Si vous allez voir le commissaire des prisons, il vous dira « Désolé, c'est contre le règlement ». Le directeur ajoutera « Si je vous donne une couverture de plus, il faudra que j'en donne à tout le monde ». Mais si vous êtes en bon terme avec le gardien de votre couloir, il ira simplement en chercher une à la réserve sur votre demande. J'ai toujours essayé d'être correct avec les gardiens de ma section. L'hostilité était destructrice. Il n'y avait aucune raison d'avoir un ennemi permanent parmi eux. La politique de l'ANC consistait à éduquer tout le monde, même nos ennemis. Nous pensions que tous les hommes, même les gardiens de prison, étaient susceptibles de changer, et nous faisions tout notre possible pour les faire basculer. Avoir des gardiens bien disposés facilitait une de nos tâches les plus vitales sur Robben Island, la communication. Nous considérions de notre devoir de rester en contact avec nos hommes enfermés avec les droits communs en F et en G. La communication entre les sections constituait une grave violation des règlements. Nous trouvions quantité de moyens efficaces pour contourner l'interdiction. Les hommes qui venaient nous apporter les fûts de nourriture appartenaient à la section générale. Et dans les premiers mois, nous avons réussi à avoir des conversations à voix basse dans lesquelles nous faisions passer de brefs messages. Nous avons formé un comité clandestin chargé de la communication, composé de Kathy, Mac Maharaj, Lalou Chiba et plusieurs autres. Leur travail consistait à mettre au point ces techniques. Nous guettions les moments d'inattention des gardiens, en général pendant et après les repas. Nous nous servions nous-mêmes à manger et nous avons imaginé que des camarades de la section générale qui travaillaient aux cuisines placeraient des lettres et des notes enveloppées dans du plastique au fond des fûts de nourriture. Nous adresserions les réponses de la même façon, en enveloppant des notes dans le morceau de plastique et en les dissimulant en bas des piles d'assiettes qu'on rapportait aux cuisines. Nous nous efforcions à ce que ce soit bien sale, en étalant de la nourriture sur les assiettes. Les gardiens se plaignaient du désordre, mais ils n'ont jamais pensé à aller voir de plus près. Afin que les autorités ne puissent pas comprendre nos notes si elles les trouvaient, nous utilisions des méthodes qui ne permettaient pas qu'on voie ou qu'on déchiffre facilement l'écriture. L'une d'elles consistait à écrire avec du lait. Le lait séchait presque immédiatement et le papier semblait vierge. Mais quand on étalait sur le lait séché un peu du désinfectant qu'on nous donnait pour nettoyer nos cellules, l'écriture réapparaissait. Une autre technique consistait à utiliser une écriture minuscule et codée sur du papier hygiénique. Ce papier était si fin et si facile à dissimuler que c'est devenu une façon courante de faire passer des messages. Quand les autorités découvrirent un certain nombre de ceux-ci, elles prirent des mesures extraordinaires de rationnement du papier toilette. Nous réussissions à communiquer avec l'extérieur de deux façons. Par des prisonniers qui avaient achevé leur peine et qui quittaient l'île, et par des contacts avec les visiteurs. Les prisonniers qui s'en allaient sortaient nos lettres en fraude dans leurs vêtements ou leurs bagages. Avec les visiteurs, la situation était encore plus dangereuse parce que le visiteur lui-même prenait un risque. Les gardiens n'avaient pas le droit de rester dans la pièce quand nos avocats venaient nous voir, et parfois nous en profitions pour leur passer une lettre. On ne fouillait pas les avocats. Dans ces rencontres, nous communiquions aussi par écrit, comme nous l'avions fait pendant le procès de Rivonia. Comme la pièce était truffée de micros, nous disions « Veuillez transmettre à… » Nous nous arrêtions pour écrire OT, ce qui voulait dire Oliver Tambo, sur un morceau de papier. Que nous approuvons son projet de réduire la taille de, et nous écrivions la direction nationale.